什么都
Voilà, donc aujourd'hui on a un thème qu'on va aborder avec un invité. Donc notre invité s'appelle Richard Venn et donc il va se présenter lui-même et bien sûr après je lui poserai des questions. Bonjour Richard.
Bonjour René.
Donc voilà, peut-être tu peux expliquer qui tu es, d'où tu viens et après on verra ce que tu fais et vers quoi tu te projettes.
Oui, merci, bonjour. D'abord, merci de m'avoir invité sur ton antenne et je suis très heureux de partager ce petit moment, on va dire culturel, avec toi et surtout avec tes auditeurs. Voilà, je m'appelle Richard Venn, ce sont mes noms et prénoms francisés. À l'origine, je m'appelle Ben Ko, d'origine chinoise, du continent. Je suis né à Pékin en 75, je n'ai pas peur de dévoiler mon année de naissance en effet. Et je suis arrivé en France en 92, en région parisienne. Ça fait un bail. Alors actuellement, je travaille dans l'informatique en tant que administrateur réseau système dans un laboratoire de l'État français. Ça, c'est pour le travail. Et accessoirement, je suis également un passionné, pas seulement des arts martiaux, mais aussi et surtout de la culture martiale chinoise. Que je pratique depuis 2004.
Voilà. Alors, peut-être une première question, c'est quand on parle des arts martiaux, souvent on pense à la Chine, on pense au Kung-Fu aussi. Est-ce que tu pourrais faire un petit tableau d'ensemble de ce qui existe en termes d'arts martiaux, d'où ça vient, dans quel pays ça se pratique beaucoup, et puis ceux qui sont les plus inspirés par cette... Enfin, je ne sais pas si on peut dire discipline.
Oui, bien sûr. D'abord, l'art martial, alors ça va peut-être surprendre les gens, mais j'ai eu beaucoup de mal à traduire le terme art martial en chinois parce que, en effet, en chinois, il n'y a pas de terme équivalent à art martial. C'est un terme en réalité européen qu'on commence à utiliser à partir du XVIe siècle. Mais en chinois, on utilise plutôt kung-fu ou wushu, hein, ce sont des termes chinois, et en japonais, en coréen, c'est encore d'autres termes. Alors, vers le début des années 80 en Chine, le gouvernement chinois a voulu recenser le nombre d'écoles ou de styles existants à cette époque-là. Ils en ont trouvé à peu près 130. Mmh. C'est-à-dire 130 styles ou écoles différents d'arts martiaux, voilà, en Chine. Alors, c'est aujourd'hui les arts martiaux, on va dire, c'est un peu pratiqué dans le monde entier par beaucoup beaucoup de gens. Évidemment, en Chine, il y a beaucoup de pratiquants. Alors, les gens aujourd'hui, malheureusement, sont un peu moins intéressés par les arts martiaux traditionnels, ils se tournent un peu plus vers les pratiques modernes, mais aussi vers d'autres disciplines de combat comme l'MMA en Chine.
D'accord. Donc nous, en France, on va dire, on a vu pas mal de films entre guillemets arts martiaux. C'est quelque chose même qui s'est beaucoup développé avec des technologies modernes où on voit des trucs de fou, des cascades
oui.
Qui sont un petit peu trompeuses dans leur réalité. Puis on avait un grand, j'allais dire, comédien, acteur qui était un grand spécialiste du kung-fu. Je ne sais pas s'il existe encore, s'il tourne encore, mais en tout cas, quand on parle de kung-fu, on a forcément l'idée de ce précurseur, d'une certaine manière. Tu te rappelles de son nom, Bruce Lee?
Bruce Lee, oui, bien sûr, c'est le premier, vraiment le premier, à avoir pensé à porter les arts martiaux à l'écran. C'est lui vraiment le précurseur de tous les autres, le plus grand, le pionnier qui a exploré les possibilités des arts martiaux chinois à l'écran. Et c'est l'idole de toute une génération du monde entier. Il était également, il comptait parmi ses disciples un acteur américain très connu qui a même entraîné des commandos dans la marine américaine. Et oui, je me souviens de lui. Malheureusement, je n'ai pas vu tous ses films parce que je ne suis pas né quand lui, il est devenu connu. Donc, moi, je suis plutôt des années 80. C'est les films d'arts martiaux des années 80 qui m'ont vraiment beaucoup influencé. Mais Bruce Lee, oui, bien sûr, indéniablement, c'est le premier. Voilà.
Alors, dans sa pratique, telle qu'il la montre, qu'il la démontre dans ses films, est-ce qu'il a une vraie authenticité dans ses façons de pratiquer ?
Oui et non. Alors, là, bien sûr, je suis prêt à accepter toutes les critiques, mais j'exprime un point de vue qui est plutôt assez personnel et de quelqu'un qui pratique. Sa pratique externe, parce qu'en dans les arts martiaux chinois, on peut le classifier selon la manière de pratique. Il y a la pratique externe, il y a la pratique interne. Et lui, indéniablement, était un très grand pratiquant, voire un combattant. Ça c'est indiscutable. C'était un très bon pratiquant de l'externe, indéniablement. Ça se voit dans ses films. Il était rapide. Ses coups de pied sont connus. On le surnommait Bruce Lee les trois coups de pied en chinois, parce que ses coups de pied sont rapides. Et l'authenticité viendrait s'il avait eu le temps, s'il n'était pas parti si jeune. L'authenticité viendrait s'il avait un peu plus de pratique interne. Et en général, cette pratique interne viendrait avec l'âge. Mais là, il nous a quittés trop jeune, donc on n'a pas pu voir l'autre moitié de la pratique.
Est-ce que tu peux nous dire si ses pratiques, en fait, son métier aussi, acteur cascadeur en même temps, hein, ça a précipité son décès?
Alors, quant à son décès, c'est une histoire très complexe. Il y a eu plusieurs versions. Non, de ce que j'ai pu savoir, ce n'est pas sa pratique qui a eu raison de lui. Non, ce n'est pas ça. Il y aurait eu, selon certaines rumeurs, des histoires, des problèmes avec la pègre hongkongaise de l'époque. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. En tout cas, c'est la thèse qui m'a été transmise, qui m'a été expliquée par certains maîtres d'arts martiaux du milieu.
En tout cas, pour nous, il vit encore et moi, j'imagine toujours qu'il continue de faire des films.
Oui, bien sûr. Il est parti vraiment trop jeune, mais d'autres ont pris le relève dans les années 80. En Chine, il y a eu quand même une génération entière d'acteurs qui ont lancé la mode d'arts martiaux en Chine continentale. Là, c'est la génération de Jet Li, ainsi que tous ces maîtres. Voilà, c'est lui qui a réalisé, qui était le papa, lui qui a réalisé, qui a joué dans le temple de Shaolin dans les années 80, avec un financement hongkongais d'ailleurs. Et je suis plutôt de sa génération. Ces films à lui m'ont vraiment énormément influencé, mais ce n'est pas lui mon idole, mais l'un de ses maîtres, on va dire l'un des méchants des films, hein, il s'appelle Yu Chenghui, un expert, un épéiste expert très connu en Chine continentale, malheureusement méconnu du grand public mondial.
Donc, ces arts martiaux, le kung-fu, etc., il y a des lieux assez connus en Chine où on les enseigne, on les pratique bien sûr aussi, et ce sont de véritables écoles.
Oui, absolument. Là, c'est une excellente remarque, en effet. Il y a des écoles partout en Chine, dans les lieux, on va dire, connus, autrefois très connus en tout cas, pour la pratique de la culture martiale. Je ne parle pas des arts martiaux, mais de la culture martiale. Il y a le temple de Shaolin, donc ça c'est le côté bouddhiste. Il y a les monts Wudang, ça c'est le côté taoïste. Là on parle de philosophie et de religion, hein, qui influence énormément la pratique martiale chinoise. Mais ce qui est intéressant dans la pratique martiale en Chine, c'est qu'elle est à la fois partout, mais aussi nulle part. Partout, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez dans les jardins publics, un bout de terrain, une petite place, même derrière des buissons, vous allez tomber sur des pratiquants qui pratiquent quelque chose depuis des générations et des générations. Et pourtant, ils sont là avec tout le monde, des passants qui ne regardent même pas. La police n'intervient pas. Tout le monde font semblant de ne pas voir, mais tout le monde le sait, que c'est un très grand pratiquant qui est là et depuis des générations, son maître était là. Donc, elle est omniprésente, mais aussi nulle part. On ne sait pas vraiment où sont les vrais maîtres. C'est difficile de les trouver, mais ils sont juste parmi le peuple.
Alors, on peut dire qu'en Chine, contrairement à ce que les Français peut-être imaginent, la religion est un peu partout, et notamment dans les sommets, les montagnes, enfin, pas forcément les très hautes montagnes, quoique. Et il n'est pas rare de voir une petite montagne avec en haut un temple bouddhiste et l'autre en face avec un temple taoïste. Est-ce que dans les arts martiaux, il y a aussi cette mise en perspective, pas forcément cette opposition, mais cette rivalité aussi peut-être ?
Non, pas vraiment. Il y a, à l'instar du dessin yin-yang, alors là, ce serait intéressant de revenir sur ce que je venais de dire tout à l'heure, c'est-à-dire la classification selon la manière de pratique des arts martiaux, plutôt la culture martiale chinoise. Il y a la pratique externe, il y a la pratique interne. La pratique externe, symbolisée notamment par Jet Li, mais aussi Bruce Lee, dont on vient de parler, elle est surtout, on va dire, représentée par les moines de Shaolin. J'en ai parlé tout à l'heure, ils ont fait un film au début des années 80. En face, son complément, son alter ego, nous allons retrouver les moines taoïstes qui sont Wudang. Et les moines taoïstes pratiquent plutôt les arts internes. L'externe, Shaolin, est, j'allais dire, c'est un produit d'importation, puisque le bouddhisme n'est pas né sur le sol chinois. Il est venu d'ailleurs, il est venu d'Inde. Alors que le taoïsme, lui, en effet, c'est un produit made in China. Il est né en Chine. Et ses pratiques martiales et internes, ces deux pratiques sont nécessaires, s'opposent l'une à l'autre, néanmoins nécessaires, et se complètent pour compléter une pratique, pour qu'un pratiquant soit complet. Mmh. Et non, il n'y a pas d'opposition, mais il y a une complémentarité qui est nécessaire pour qu'un pratiquant connaisse les deux côtés de la force, si j'ose dire.
Donc, le bouddhisme est arrivé en Chine via un voyage extraordinaire d'un moine qui est revenu à Xi'an déposer les écrits sacrés du bouddhisme. Et ça, on peut encore comprendre cette culture-là, puisqu'il y a... Il y a des lieux à Xi'an qui proposent de découvrir ou de comprendre un petit peu ces logiques, voilà, cette épopée, on peut dire ça. Est-ce que le fait que les écrits du bouddhisme aient été déposés à Xi'an, donc le début de la route de la soie, pour résumer, est-ce que ce fait-là implique que des écoles aient rayonné à partir de ce lieu des écrits sacrés du bouddhisme ?
Pas tout à fait. La pratique martiale chinoise est devenue, on va dire, une pratique systémique, faisant partie intégrante de la culture chinoise, débute il y a environ 3500 ans, c'est-à-dire bien antérieure à la naissance du Bouddha lui-même, du premier Bouddha lui-même, donc le prince Siddhartha. Si ma mémoire est bonne, est né 200 ans avant Jésus-Christ. Pendant la période des royaumes guerriers, il y avait, on l'imagine bien, beaucoup de conflits, de guerres frontalières entre les différents royaumes. C'est à ce moment-là que les institutions ont compris l'importance de la pratique martiale. Et ça devenait une discipline obligatoire pour tous les sujets de chacun des royaumes. Et là, il commençait à y avoir des théories martiales, pas seulement sur la pratique. Et à cette époque-là, il y avait aussi de très grands philosophes qui ont fondé le fondement des pierres fondatrices, des pensées, des divers courants de pensée chinois, comme le taoïsme et le confucianisme. Donc tout ça ensemble, on commençait à avoir une pratique martiale, on va dire, théorisée, donc, qui devenait systémique dans le paysage chinois.
Donc, d'après ce que j'entends de vos propos, ça veut dire que très vite, les arts martiaux ont été intégrés dans une façon de combattre, de défendre peut-être des royaumes ou des lieux, on va dire, et des cultures. Est-ce qu'il y a aussi une autre forme de pratique qui est plus sur la concentration intérieure, sur le... J'allais dire le bien-être, c'est ce qu'on dit maintenant, mais souvent, il y a derrière l'idée du bien-être, on peut dériver après vers des sectes, des gourous, etc. Est-ce qu'il y a plutôt cette idée de cette maîtrise de l'énergie, de la concentration, de la, on parle parfois de zénitude, mais peut-être se sentir un petit peu coupé d'un monde un peu fou dans lequel on vit pour se retrouver soi-même. C'est possible, ça ?
Bien sûr, eh bien justement, parallèlement au développement martial, j'allais dire énergétique, de la pratique pendant la période des royaumes guerriers, les philosophes confuciens, mais aussi taoïstes, ont développé toute une palette de théories permettant de rendre les choses spirituelles. Donc, là sont nées ou est née la pratique interne. La pratique interne est concentrée sur le qi. Cette mystérieuse syllabe que j'ai même, moi-même un peu de mal à traduire, je dirais l'énergie, ou certains parlent de flux énergétique, en se concentrant sur ce flux énergétique qui circule à travers le méridien de nos corps, on peut essayer de faire la pratique au calme. En effet, là, c'est une très bonne remarque. Dans la pratique chinoise, je parlais de pratique externe, interne, mais aussi la pratique mobile et la pratique immobile. La pratique mobile, Bruce Lee, Jet Li, voilà, je pense que ça résume déjà bien les choses. La pratique immobile, oui, le qigong, la lecture, en effet, tout ce qui est spirituel, la pratique de l'art du thé, ça fait partie, ça peut surprendre, mais ça fait partie de la pratique immobile, la pratique interne, une pratique spirituelle qui permet en effet aux gens de se retrouver au calme, dans les réflexions, réfléchir à ce qu'on a fait, réfléchir aux mouvements qu'on a fait, ce qui sont bien faits, et qu'est-ce qu'on peut améliorer, mais aussi à d'autres aspects de la vie. Alors, fait partie d'un ensemble.
Dans tous les parcs en Chine dans lesquels je vais, je vois toujours des gens qui sont en groupe et qui pratiquent des mouvements, des gestes, qui se concentrent, qui... Voilà. Donc, ce n'est pas que du folklore, hein. Je pense que ce sont des pratiques presque traditionnelles qui se perpétuent et puis qui permettent aussi aux gens de se retrouver. Il y a un aspect aussi social de ces pratiques ?
Absolument. C'est une fois de plus une très bonne remarque. La pratique martiale aujourd'hui, traditionnellement en Chine, c'est rare qu'une personne pratique l'art martial ou la culture martiale. C'est rare. Lorsqu'on le dit, ça veut dire que c'est un véritable expert. C'est ce qu'on voit en effet dans le jardin public, les personnes âgées qui dansent avec un éventail à la main, souvent avec une musique à côté, qui bavardent, qui font des gestes, et bien ce qu'ils font, et bien c'est ce qu'on appelle en chinois le yangsheng. Yangsheng, que je traduirai en français par nourrir le principe vital. C'est tout un ensemble, c'est un art de vivre, ou plutôt un art de mieux vivre, de bien-être, qui comprend pas seulement le pratique martial, mais aussi les habitudes alimentaires, la médecine chinoise, la lecture. Et dans les jardins publics, les gens se retrouvent pour faire ce qu'on appelle le yangsheng, donc, qui permet de nourrir le principe vital, d'avoir une bonne santé, une meilleure santé physique, mais aussi mentale. Et c'est d'ailleurs, là je dévoile un grand secret, René, quel est le but ultime de la culture martiale chinoise, son but ultime ? Eh bien, ce n'est pas frapper dans un sac à frapper, ou même... lui casser un os à son adversaire. Non, c'est le yangsheng. C'est le but ultime, d'avoir une bonne santé, vivre longtemps en bonnes conditions.
Donc, en Chine, la façon de se soigner est très différente des pratiques occidentales. Et souvent, on essaie d'éviter d'être malade, donc d'entretenir son esprit, son corps. Tout ça, c'est un ensemble cohérent ?
Exactement. C'est un ensemble cohérent. C'est un ensemble cohérent scientifique parce qu'on considère dans la médecine chinoise qu'à partir de 40 ans, le corps humain, il est sur le déclin et c'est une chose irréversible. Ça fait partie de la nature. L'homme, ainsi tout vivant, est ainsi fait. On ne peut y revenir. Donc, à partir de 40 ans, les pratiques, entre guillemets, folklore, comme tu l'as très bien décrit, deviennent de plus en plus rares, ils prennent une part de plus en plus petite. Alors, est-ce que la pratique martiale s'arrête pour autant? Non, certainement pas. J'allais dire que c'est là, c'est bien à ce moment précis, que la partie intéressante va commencer. C'est quoi? C'est la pratique interne. C'est la pratique plus spirituelle. C'est la pratique qui, comment dire, dont le but ultime est son bien-être, son mieux vivre. Et à partir de quand aujourd'hui, on peut vivre jusqu'à 70-80 ans sans trop de difficultés dans les grandes villes en tout cas. Et donc il reste au bas mot une bonne quarantaine d'années à vivre. Et la pratique martiale, c'est là que ça va commencer. La vraie pratique martiale spirituelle.
Alors, en Chine, il y a aussi, pas seulement dans les parcs, mais voilà, dans des lieux spécifiques, la pratique du yoga qui est importante, de plus en plus populaire, on peut dire. Est-ce qu'on peut les mettre en perspective, ces deux formes? Est-ce qu'on peut dire qu'il y en a une qui progresse et l'autre qui stagne, ou bien tout cela, c'est dynamique encore maintenant?
Je pense que ça fait partie d'un cycle. Effectivement, alors j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Hein, aujourd'hui, alors parmi les jeunes pratiquaient il y a quelques années Taekwondo, qui est très à la mode. Aujourd'hui, ils préfèrent faire du MMA, qui est un peu plus sauvage, qui a rien de là-dedans. Le yoga, oui, j'en ai entendu parler de ça. Mais je pense que aujourd'hui, malheureusement, nous vivons un peu à une époque très mercantile, si je puis me permettre le terme.
Bien sûr.
Les Chinois n'en sont pas épargnés,
Oui,
hélas.
oui,
Et donc, pour eux, comme on dit, le plat des autres est toujours meilleur que celui qu'on a à la maison.
oui.
Et qu'ils tentent autre chose. Et je pense que, au bout de quelques années, ils finiront par revenir à leur pratique traditionnelle.
Alors, Richard Venn, donc vous êtes un pratiquant et un spécialiste, on l'entend à vos propos. Votre inspiration, elle vient de quelqu'un en particulier?
Mon inspiration vient de plusieurs personnes. Pour le côté pratique, j'ai cité tout à l'heure Yu Chenghui, qui est le dernier grand épéiste chinois. Pour ceux qui ont du mal à situer les personnages, ils n'ont qu'à regarder le premier film du temple de Shaolin. C'est le grand méchant avec une épée qui tue tout le monde. Indéniablement, il était un grand maître épéiste et son niveau d'arts martiaux était vraiment extrêmement haut. Ça, c'est sur le plan pratique, j'allais dire le plan mobile. Mais le plan immobile, celui qui m'a énormément inspiré, ça peut surprendre ou pas, eh bien, c'est Zhuang Zi. C'est Zhuang Zi. Zhuang Zi, qui est Zhuang Zi? C'est un personnage, c'est un penseur, c'est un philosophe penseur qui a vécu à l'époque du Bouddha, hein, il y a à peu près 400 ans avant Jésus-Christ. Eh bien, avec Lao Tzu, les deux, là, ce sont les deux penseurs fondateurs du taoïsme. Et Zhuang Zi, c'était son thème préféré était l'insouciance. Et j'invite vraiment à nos auditeurs, mais aussi à toi, de lire ses ouvrages, ses petits contes qui racontent sa véritable pensée, l'insouciance. Comment est-ce que l'homme se comporte par rapport à la nature?
Alors,
Car Laozi.
c'est peut-être aussi cette idée-là qui est le fait de ne pas intervenir, de peut-être respecter ce qui doit se passer ou ce qui se passe.
C'est exactement. Laozi l'a dit, Tao Fa Zi Ran. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire toute sagesse est régie par la nature. Toute sagesse est dans la nature. Le propre du taoïste, en effet, c'est de prendre du recul par rapport au monde du vivant, au monde à ce brouhaha social, sociétal, et essayer de rester calme est de rester immobile face à l'hypermobilité.
Est-ce qu'on peut dire que cette pratique, elle est un peu en phase avec les problématiques écologiques qu'on essaie de résoudre et que le respect de la nature fait partie depuis tout le temps du taoïsme?
Bien sûr, le Tao Fa Zhen, donc toute la sagesse est dans la nature. Je pense qu'on peut classer Lao Tzu comme le premier des plus grands écologistes de l'humanité. Il a tout compris. C'est une pratique qui respecte la nature. Comment dire, on est détruit par l'environnement, mais on écoute son corps également. La pratique change, évolue en fonction de l'âge, des saisons et même des moments de la journée. On vit avec la nature et on accompagne sa vie avec la pratique.
Alors, il y a aussi en Chine beaucoup d'art, mais qui ne sont pas des arts martiaux, qui sont soit du dessin, de la calligraphie ou de la peinture, où on retrouve de la nature avec l'homme tout petit dans des univers immenses de montagnes, etc. Une forme d'humilité. Est-ce que vos arts martiaux, amènent à une forme d'humilité?
Oui, mais ça, c'est bien sûr, absolument. Je vais prendre un exemple très flagrant. Le salut traditionnel, lorsqu'on pratique, on doit saluer son maître, en tout cas son professeur. Le salut, il est fait de deux parties. D'abord, le poing droit serré, plaqué contre la paume de la main gauche, ouverte, mais avec le pouce qui est rentré. On rentre son pouce pour dire qu'on n'est pas le meilleur. On doit rester humble et modeste. Le poing droit symbolise la violence, symbolise la force, le combat. Mais ce poing droit est arrêté par la modestie, avec la main gauche ouverte. Et selon les traditions chinoises, on dit Wen Zuo Wu Yu. Qu'est-ce que cela signifie? Le côté gauche symbolise les lettrés. Le côté droit symbolise le martial. Donc ce sont les lettrés, la connaissance qui doivent arrêter la violence et le combat.
Alors, je pense que ce que tu dis là, Richard, ça devrait quand même nous inspirer dans une société où la violence revient en force, dans différents pays, hein. Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de bon sens à prendre du recul et peut-être à observer le monde plutôt qu'à le détruire?
Le bon sens, oui, c'est non seulement du bon sens, je dirais qu'aujourd'hui, au vu de ce qui se passe dans le monde, des conflits en cours, mais des conflits malheureusement à venir, il est nécessaire, même plus que urgent, comme je disais tout à l'heure, de faire de la pratique interne, de combattre l'hypermobilité avec l'immobile. Ça devient un combat, ça devient un engagement. Ça devient une nécessité vitale. La pratique martiale chinoise, en tout cas, encourage ce côté, on va dire, prendre du recul par rapport à ce qui se passe devant soi. Je prends un exemple plus concret. Traditionnellement, tous les arts martiaux chinois traditionnels sont internes, tous, sans exception. Et en pratique interne, pendant un combat, parce que si, on combat aussi avec la pratique interne, ça existe. Eh bien, on laisse toujours l'autre venir. On n'attaque jamais le premier. Le concept fondamental des arts martiaux traditionnels chinois n'est pas l'attaque, mais la défense.
Alors,
Mais si personne n'attaque, il n'y a plus de conflit.
est-ce que justement, ce n'est pas pour une personne qui est humaine, avec ses défauts, ses qualités, une façon de s'auto-contrôler entre ses pulsions, ses impulsions, et puis la raison de rester calme, digne et maîtriser ce qu'on fait?
Bien sûr. C'est l'utilité justement des différentes philosophies qui sont nées justement à l'époque où les royaumes guerriers se battaient quasiment tous les ans. Les philosophes ont compris que la pratique d'un art martial ne peut être seulement dédiée à l'attaque. Eh bien, dans la culture martiale chinoise, on parle aussi de la stratégie. On parle de Sun Zi, qui est un très grand stratège qui a vécu environ 500 ans avant Jésus-Christ, eh bien, la stratégie ultime énoncée par Sun Tzu est quoi? Est que vaincre sans combattre. Et donc, on parle de maîtrise de soi, ce n'est pas parce qu'on a une puissance immensément supérieure à celle de son adversaire que l'on doit forcément l'écraser. On maîtrise le combat et on lui fait comprendre que le combat doit cesser et nous allons devoir se comporter comme des gens calmes.
Alors, est-ce que cette attitude, ce comportement, cette façon d'être et de se présenter à l'autre, aux autres, c'est quelque chose qui est suffisamment compris dans le monde? Où on a plutôt tendance à voir, nous, une efficacité par la force, parfois la violence, les armes, etc. Alors que le contournement, le positionnement, c'est parfois aussi efficace.
Alors, je ne vais pas forcément me lancer dans une analyse extrêmement complexe de ce qui se passe dans le monde des géopolitiques, mais nous voyons bien qu'aujourd'hui, dans le monde entier, le monde entier est devenu un échiquier, de jeu de go, et chacun sa manière de jouer. Il y a ceux qui jouent au poker, il y a ceux qui jouent aux échecs, il y a bien sûr ceux qui jouent au go. On se demande c'est qui. Oui, cette différente manière de jouer font qu'il y a effectivement des affrontements d'intérêts. Mais si on revient à la pratique martiale, c'est l'attaque frontale, c'est très rare. Une fois de plus, quand je parle des arts martiaux, je parle toujours des arts martiaux traditionnels chinois. L'attaque frontale, c'est clairement pas son truc, il faut être clair. C'est le contournement, c'est dévier la force qui vous arrive dessus, dévier une attaque, utiliser la force de l'ennemi contre lui-même et tout en se préservant soi-même. On met l'accent plutôt sur la défense.
Alors
Oui,
Richard,
effectivement, c'est plus stratégique.
je voudrais parler maintenant d'un livre qui m'a vraiment ému à pleurer, hein, qui s'appelle La joueuse de Go. Alors justement, c'était pendant la guerre entre la Chine et le Japon, et une femme chinoise et un homme japonais avaient l'habitude de jouer ensemble et ils se sont retrouvés dans des camps opposé. Et c'est une issue tragique dans ce roman qui est vraiment superbe. Donc l'auteur, c'est Shan Sa, Shansa, enfin en français. La joueuse de Go, c'est un très très beau livre que je peux conseiller à tous les auditeurs, bien sûr.
Ça a l'air émouvant, mais en effet, ça fait partie, de la pratique, on va dire, immobile. La lecture, c'est quelque chose qui est encouragé pour tout bon pratiquant complet.
Voilà, donc je voudrais revenir sur les Shaolin, enfin le temple Shaolin, et surtout les spectacles qui sont diffusés dans le monde. On peut voir des présentations de grands
Oui.
spectacles Shaolin. Est-ce que ça a un sens dans l'esprit,
Il y a une petite
justement?
coupure de réseau.
Comment? Allô?
Oui, ah, ça y est, c'est revenu. Je
Oui.
n'ai pas entendu la question.
Ah, d'accord. Donc la question, c'est est-ce que ça a un sens pour des Shaolin de représenter dans des grands spectacles leur art qui est plutôt, alors je sais pas, de l'ordre, pas forcément de l'intime, mais d'une certaine forme de discrétion habituellement?
Je n'ai pas entendu la question complète, je suis désolé, il y a une petite coupure de réseau.
Bon, je vais redire la question, ok. Donc
D'accord.
c'est le Quand on voit des grandes démonstrations des Shaolin, hein, dans le monde avec les spectacles qui tournent, grands spectacles, voilà, gros business, on peut dire aussi, est-ce que c'est compatible avec les valeurs, justement, Kung-Fu?
Eh bien, ça dépend du point de vue. D'un point de vue moderne, oui, c'est parfaitement compatible. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous vivons dans un monde mercantile. Qu'on le veuille ou non, c'est une réalité, c'est factuel. On n'y peut rien, c'est un fait. Et si on ne fait pas de démonstration, si on ne fait pas de spectacle, entre guillemets, on n'est pas vendable. On ne peut pas, on n'est pas vendable. On ne peut pas vivre de ce qu'on fait. Peu de gens aujourd'hui vivent des arts martiaux. C'est très peu, très peu. J'en connais une personne sur les centaines que je connais. Oui, c'est indéniablement une nécessité si on veut que cela survive dans un monde de compétition, dans un monde d'images et de folklore. Mais d'un autre point de vue traditionnel, c'est contraire aux valeurs traditionnelles. Une fois de plus, nous retrouvons cette opposition pratique externe-interne. La pratique externe peut donner beaucoup de spectacles. Ça fait du bruit, ça saute dans tous les sens. Ce sont de véritables, j'allais dire, gymnastes professionnels. Ils sont très, 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 très bons dans ce qu'ils font. Mais la pratique interne purement chinoise ne montre pas ce qu'on fait. On n'a pas l'habitude de montrer à tout le monde ce qu'on fait. C'est contraire au taoïsme.
Alors, dans la pratique justement actuelle et dans l'apprentissage, est-ce qu'en France il existe des lieux où on peut voir, comprendre, éventuellement s'initier à ces arts?
Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Les Français aiment bien la pratique, aiment bien la pratique interne. Il y a beaucoup d'associations de tai chi et de qigong en France, en région parisienne, mais aussi en province. Ils font un travail de fond, ils sont là, ils pratiquent. Et donc, il y a beaucoup de lieux et d'associations où on peut en effet s'initier aux arts internes traditionnels chinois. Et je ne peux que les féliciter et les encourager à continuer à faire ce qu'ils font.
Voilà, bien, Richard Venn, je pense que le public a un petit peu cerné l'esprit de ce qui vous anime, et bien sûr peut se documenter encore davantage. Alors soit en regardant des films, des documentaires, en lisant, et comme on l'a vu, l'écriture c'est aussi important dans vos domaines.
Oui, c'est. Merci beaucoup René, merci de m'avoir invité. J'espère apporter un peu plus de lumière vis-à-vis de la pratique martiale chinoise. Et effectivement, je mets l'accent sur ce qui est de l'écriture. Et il faut savoir qu'en Chine, au-delà de sixième dan, ceinture noire, ce n'est plus la technique qui est jugée, regardée par le jury, mais les livres qu'on aura publiés. Oui. Traditionnellement, les écritures sont très importantes, même pour les pratiques martiales.
Là, j'ai conseillé un livre, hein, La joueuse de Go. Est-ce que vous auriez un livre à conseiller à nos auditeurs?
Alors, pour bien comprendre la philosophie chinoise, je ne peux que conseiller, on va dire, la lecture des grands classiques de Lao Tzu et de Zhuang Zi. Donc, ce sont les ouvrages. Il y a un rapport intime avec le taoïsme, car c'est bien cela qui anime la philosophie martiale chinoise.
Bien, très très grand merci Richard, et c'était
Mais merci à toi,
passionnant.
René.
Et très bonne journée. Et puis donc, je
Également.
ne sais pas si le week-end on pratique aussi. Est-ce que tous les jours on s'astreint à répéter, exercer ce qu'on a appris?
Oui, tous les jours, on pratique pas forcément les mêmes choses. Il suffit de quelques minutes pour pratiquer un petit truc. Mais ce qui compte, c'est que chaque goutte d'eau de tous les jours forme à la fin un océan.
Merci beaucoup, Richard.
Merci à toi.